tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec
Rivox, le rendez-vous des musiques et arts électroniques.
Patrick Portela, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans le studio de Radio Grenouille. Patrick Portela, vous êtes musicien, compositeur de musique électroacoustique ou contemporaine, on va en parler peut-être, c'est la définition. D'après la biographie que j'ai, on parle du début de votre activité plutôt au début des années 80, mais j'ai cru comprendre qu'il s'est passé pas mal de choses aussi avant. Ça aussi, on va peut-être un petit peu en parler. En tout cas, depuis 1981, vous êtes compositeur au Centre National de Création Musicale GMEM à Marseille. Et depuis 1987, la fin des années 80, vous vous intéressez particulièrement à la rencontre entre musique traditionnelle, au pluriel, avec différents voyages immersifs, et musique et vos compositions. Alors, je voulais d'abord, parce que j'ai cru comprendre que pour vous, votre ancrage dans cette ville, particulièrement, et dans cette ère géographique, avait une certaine importance quant à votre manière de regarder le monde. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette importance d'être à Marseille, d'être d'ici, et plus largement que Marseille, peut-être ?
Oui, l'ancrage à Marseille, évidemment, c'est un ancrage important, puisque j'y suis depuis de très nombreuses années, sans y être né, mais bon, en étant venu à Marseille assez jeune. Et ben, c'est quelque chose qui s'est naturellement affirmé, je dirais, justement au fil de ces voyages où j'ai passé entre 3 et 6 mois, plusieurs fois dans les 30 dernières années, à l'étranger pour aller chercher d'autres cultures. Et voilà, c'est un peu normal, je crois, de sentir finalement une famille, un ancrage plus fort quand on est ailleurs. Je crois que c'est ce qui a un peu accentué la chose.
Est-ce que vous pourriez retracer ce qui pour vous constitue l'origine de votre relation à la musique, au son, c'est lié aussi à cet ancrage-là, géographique, à la période où vous avez grandi à Marseille et...
Je dirais que j'ai grandi quand même dans une période où en France et en Europe, on a eu la possibilité de s'ouvrir justement à d'autres cultures et à d'autres musiques. Et j'ai grandi donc à la fin des années 60 en découvrant toute la musique pop rock qui arrivait. Et dans la foulée, le jazz, le free jazz et la musique contemporaine qui étaient aussi à cette époque-là... qui n'était pas du tout une musique commerciale, mais qui était quand même assez répandue dans l'écoute et dans les concerts. Et même à Marseille, on pouvait voir les concerts de ces musiques.
En tant qu'enfant et adolescent.
Adolescent, oui, pour la musique pop, rock et contemporaine, jazz. Donc musique savante, je dirais, contemporaine et même jazz, je les ai découvertes par le free jazz et la musique contemporaine avant d'aller vers la musique classique et le jazz plus classique aussi. C'est un peu générationnel, une façon de fonctionner qui n'a rien d'exceptionnel par rapport à cette époque-là.
Vous en parliez de nombreux voyages, hein, depuis pas mal de temps, là, entre autres Haïti, la Nouvelle-Calédonie, la Crète, l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande, etc. etc. Oui. La musique a été le moteur du voyage. Vous voyagiez déjà autant avant.
C'est les deux. Je pense. Voyager, oui, beaucoup, aussi loin et aussi longtemps sur place, plus difficilement. Mais donc, du coup, oui, ça a pu être fait parce que je pense que c'est de toute façon quelque chose d'établi qui est que. Une musique comme une culture, elle est le reflet d'une société. Et donc, ce qui m'a intéressé surtout, c'est surtout de découvrir ces sociétés différentes, même davantage que les musiques en elles-mêmes. Et j'ai abordé la création musicale de cette façon-là, en essayant de m'immerger dans d'autres civilisations, dans d'autres sociétés, pour essayer d'inventer une musique qui puisse être proche de cette société tout en étant avec un langage contemporain qui est le nôtre.
Alors, je suis tombé en surfant, comme on dit, horriblement, en surfant immobile sur Internet, sur un paragraphe dans un livre Musique et globalisation, musicologie, ethnomusicologie, qui est en fait un compte-rendu de rencontres plutôt universitaires, sur un paragraphe qui vous est consacré. Et j'ai cru voir une comparaison avec un travail d'ethnologue un petit peu dans la manière dont vous immergez dans les cultures où vous allez rencontrer ces musiques et ces musiciens. Qu'est-ce que vous pensez des ethnologues, Patrick Portela, vous ?
Ben, je pense que j'ai eu, c'est vrai, cette attitude qui consiste à ne pas voyager dans le pays dans lequel je vais, mais à choisir la plupart du temps avant même de partir, mais pas toujours, un endroit qui peut être un village, une ville, bon, et puis de m'y installer en famille avec les enfants à l'école, quand c'est possible, ça l'est assez souvent. Oui, c'est vraiment de travailler sur le local d'une façon très, très précise et de se dire que, comme les ethnologues, qu'en travaillant sur un tout petit village, eh ben, on a la globalité, quoi. Voilà, donc ça, dans ce sens-là, oui, c'est une démarche très classique dans la démarche ethnologue. Ethnomusicologique aussi.
D'accord, mais au-delà de ça, vous apparentez votre travail à un travail ethnomusicologique, par exemple?
Non, je ne pourrais pas avoir cette prétention-là, puisque moi, je suis assez libre pour produire un peu ce que je veux par rapport à ce que j'entends.
Donc c'est une démarche qui est plus dans l'ordre du sensible, en fait, en dehors de cette démarche localisée.
En tout cas, j'essaie de m'approprier un maximum les choses, y compris les sensations que je peux avoir. Donc il n'y a absolument rien de scientifique là-dedans. C'est impossible d'en parler dans ce sens-là.
Alors, je crois savoir que, notamment pour l'une de vos créations qui s'appelait le Massacre des Élétoques, mais pas seulement, vous vous êtes intéressé à un instrument en particulier, ce qu'on appelle la conque, qui est un coquillage en fait, hein, et qui, notamment dans l'ère océanique, mais pas que, est vraiment un objet très important, voire avec des résonances spirituelles, symboliques, etc., mais aussi un instrument sonore. Vous l'avez retravaillé à votre manière. Pourquoi j'aimerais bien savoir que c'est un intérêt pour le son, particulièrement, j'imagine, avant tout de cet objet, mais pour quelle raison ?
Ce qui est intéressant pour moi dans la conque marine, c'est que ce n'est pas vraiment un instrument, d'abord, qu'on peut le développer aussi comme un instrument. Dans le jazz, il y a un musicien qui s'appelle Steve Tour, qui est très connu, qui en joue d'une façon fantastique.
Dans la Caraïbe, les gens jouent un petit peu aussi, de différentes manières.
Mais ouais. Bon, il faut quand même une très bonne technique pour arriver à en sortir quelque chose de musical, je dirais, dans le sens où c'est accordé, où on arrive à jouer juste, etc. Par contre, l'intérêt de ce coquillage, c'est que c'est un instrument d'extérieur et qui prend son amplitude et qui prend sa vraie réalité, elle est là. Ça existe au fond de la mer, et quand ça sort de l'eau, c'est fait pour être joué là, avec la résonance naturelle de la mer, avec différentes choses de ce genre-là. Et donc, oui, c'est un instrument, mais c'est aussi un instrument de rituel, un instrument de communication, beaucoup, aux Antilles, par exemple. Les marins qui arrivent, le poisson à vendre, ils sont sur l'eau, déjà on sait que la pêche a été bonne, etc. Donc un instrument de communication, et ça me plaît beaucoup.
Il y a d'autres instruments en ce moment qui vous intéressent particulièrement ou qui ont accompagné votre travail?
Alors l'instrument avec lequel j'ai toujours travaillé, c'est la voix. Voilà, c'est vraiment l'instrument qui pour moi est le plus fort, pour toutes les raisons qu'on connaît.
Est-ce que Vous travaillez en tant que compositeur, alors ça veut dire quoi pour quelqu'un qui est complètement naïf et qui ne connaît pas du tout en musique électroacoustique? Vous travaillez avec quel matériel précisément?
Alors je dirais que ça dépend de la création.
Ma question derrière, c'est le passage ou pas, dans quelle mesure aux outils numériques aussi?
Oui, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est actuellement, par exemple, à la prochaine création qui s'appelle Pansori, qui va être à la Friche le 15 février, c'est une création pour orchestre Mais l'orchestre n'est pas présent sur scène, il est dans les haut-parleurs. Donc j'ai échantillonné énormément de bribes d'orchestre sur des disques et je restitue cette chose-là. Donc pour moi, je ne suis pas certain que ce soit l'électroacoustique, mais par contre c'est quelque chose qui de toute façon n'est pas reproduisible sur scène si je le fais de cette façon-là. C'est-à-dire qu'aucun orchestre ne pourrait l'interpréter de cette façon-là. Voilà.
C'est plus le matériau que vous utilisez pour la composition qui va influencer le matériel, en fait.
C'est tout ça? À fait. Ouais. Voilà. Et comment la voix va venir se glisser là-dedans.
D'accord. Quel est votre rapport à la musique, vous, Patrick Portela, dans la vie? Beaucoup de gens qui en font n'en écoutent pas nécessairement beaucoup en dehors des moments où ils en font. Vous en écoutez à certains moments de la journée où,
Moi, mon principal moteur, c'est la curiosité. Je ne suis pas réellement un amateur de musique, mais je suis curieux de cette chose-là et surtout de ce qui se fait dans le temps présent, depuis toujours.
D'accord. Et donc, vous vous tenez au courant de ce qu'on appelle l'actualité musicale ou des créations
J'essaie d'être curieux de cette chose-là, oui. Davantage que de réécouter des choses que je peux déjà connaître.
D'accord. Et quelles seraient des découvertes récentes ou des choses qui vous auraient touché dernièrement?
Alors, j'aurais pas de nom, parce que j'oublie très vite ces noms-là, et puis il y en a beaucoup. Mais dans la chanson actuellement française, il y a énormément de choses que je trouve intéressantes, quoi, vraiment, qui me touchent, qui me plaisent bien. Des voix, des instrumentations, des orchestrations, entre autres, là, oui.
D'accord. Sur quel projet vous travaillez en ce moment?
Alors, ben voilà, le projet, c'est donc celui qui aura lieu samedi, le 15, là, à la Saïta.
Dans le cadre du festival Rivox.
Dans le cadre du festival, c'est un projet pansori qui est d'après une tradition coréenne, de chant coréen. Et donc, normalement, c'est pour voix et percussion, et j'ai remplacé la percussion par cet orchestre de haut-parleurs sur scène qui est une succession, une superposition de plans orchestraux instrumentaux qui n'ont pas du tout été transformés dans le son. C'est-à-dire qu'on entend réellement des sons d'orchestre, sans aucune transformation.
D'accord. Et ça a été... vous les avez coupés, cutés, c'est du,
oui.
Une forme de travail,
oui,
de collage.
Oui, c'est un montage. C'est pour ça que le terme d'électroacoustique est compliqué pour moi, parce que je ne transforme rarement vraiment les sons. Par contre, je les isole de façon à ce qu'ils soient transformés d'eux-mêmes par la coupe, par le montage.
D'autres projets à venir en travail en ce moment?
Alors un autre projet, oui, c'est un projet assez ambitieux et pas évident à régler, qui est sur la chanson coloniale. Voilà.
Avec François Billard.
Avec François Billard et Nini Cabaret, Nini Dockskin.
Avec qui vous travaillez depuis...
depuis quelques années, mais on s'est connus il y a longtemps.
On revient à l'ancrage à Marseille, et c'est ses collaborateurs réguliers également installés ici. Et c'est ainsi qu'on va clôturer cet entretien, si vous voulez bien. Merci Patrick Portela.
Merci à vous.
Radio Grenouille, Radio Grenouille. 10 minutes. La rédaction vous invite. 10 minutes avec
Rivox, le rendez-vous des musiques et arts électroniques.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.